Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Yo yo yo, chers auditeurs.
Yo yo yo, chères auditrices.
Et bienvenue dans Cours d'honneur, la meilleure émission de Radio Sorbonne Université.
Tenue par votre joyeuse bande de la première radio étudiante de la plus belle fac de France.
On dirait bien que Claudine et Abel ne se sont pas remis de notre anime de la dernière émission et qu'ils sont partis en stage intensif pour se remettre à niveau.
Stage intensif, il y en a quand même un qui plane à Amsterdam et l'autre qui prend des cours de pâtisserie à Poitiers pour nous faire ses faux cannelés.
Des cannelés de Poitiers ? Papa, si tu nous entends, désolé pour tes oreilles, promis, je sais que les cannelés, c'est bordelais. Bref, dans tous les cas, on s'est fait abandonner. C'est donc avec la mascotte de l'émission, toi, Victoire.
Et avec toi, la tête brûlée de la bande, ma chère Mélie, que nous allons présenter cette émission.
Donc pas de panique, n'éteignez pas votre radio, ce soir on vous promet une émission plus qu'à la hauteur.
Avec du rire.
Ça fait longtemps.
Mais aussi des débats poignants.
Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Et de la poésie.
On écrit de la poésie non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion.
Ensemble, nous répondrons à la question.
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi ?
Bon, les charrés, mais ils vont quand même beaucoup nous manquer ce soir, nos deux animateurs emblématiques.
Ça, c'est vrai, Mélie. Mais bon, Thomas nous a recruté une équipe de choc. Par exemple, ce soir, autour de la table, on a Louane. Tu t'es pris un cours sur la tête ? Ça fait 2 semaines que tu nous as prévu une chronique.
Ça marche, c'est bon. Je vous fais un petit édito sur vos vacances. Vos non-vacances, plutôt. Voilà.
Sora, après la débrouille la dernière fois, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ?
Alors, pour aujourd'hui, je vous ai préparé un petit débat sur les médias.
Marine, tu reviens en grande pompe, on t'avait pas vu depuis quelques mois, mais sans jamais t'oublier, nous on te sort le tapis rouge quand tu veux, mais toi, tu nous as prévu quoi ce soir ?
Eh oui, me revoilà, et ce soir je reçois Florian Jésus-Pré.
Jeanne, l'anecdote sur Balzac de la dernière émission t'a inspirée apparemment.
Eh oui, ce soir je m'occupe de la chronique des brouilles avec 3 idées de café pour aller bosser pendant les vacances.
Mélina, pas de vacances pour toi non plus, tu accueilles un invité ce soir ?
Oui, ce soir on accueille Stéphane Lambion.
Et puis, comme nos deux anciens ont pris au sérieux le calendrier universitaire en partant en vacances...
Il nous reste le stagiaire, Thomas.
Salut.
Et celui qui a dû bosser pendant que notre couple de retraités se la coule douce.
Merci.
Thomas, Thomas.
C'est une chance incroyable pour moi de pouvoir participer à cette émission. Je vais vous raconter un super tableau devant lequel tout le monde fume ses clopes en sortant de la bise en buvant le café.
Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un mercredi sur deux et en direct un vendredi par mois.
Cours d'honneur, saison 3, épisode 14.
Nous voilà. Il y a 2 semaines, c'était la rentrée et là, c'est déjà les vacances.
Parfait pour se remettre des notes du premier semestre ou pour sortir les skis sur des montagnes malheureusement sans blanc manteau de neige.
Attends, mais si, moi je connais une petite colline avec un petit peu de neige à peine 2 pas.
Ah bon, et c'est où ?
Bah alors c'est pas compliqué, quand tu rentres dans la Sorbonne Mer, tu traverses la cour d'honneur, puis tu prends le couloir de droite qui mène à l'amphi Richelieu. À nouveau sur ta droite, tu vas tomber sur une petite porte dérobée.
Attends Mélie, là c'est le studio que tu me décris. Après quoi, je monte les marches, je tombe sur Thomas et puis je claque la bise à Louane qui va lancer l'édito.
Bah ouais Victoire, c'est l'édito, la carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là c'est vraiment
carte blanche.
Alors Louane, aujourd'hui tu nous proposes de nous évader et de partir en vacances.
Et oui ma chère Mélie, c'est les vacances pour les étudiants. Et oui Mélie, encore je sais, car ils étaient en vacances de Noël il y a encore 2 semaines. Alors pour la première fois, on respire un peu dans le studio, ceci dit, car nos chers auditeurs n'ont peut-être pas remarqué, mais sachez que chaque semaine qui passe nous rapproche un peu plus de l'intérieur d'une cocotte minute et de l'effondrement du studio également. Car l'équipe ne cesse d'accueillir des petits nouveaux comme Sora, qui a le courage d'être là ce soir contrairement à d'autres. Mais toutes ces recrues, c'est la faute de qui ? De Thomas.
Évidemment.
Toujours Thomas. Bon, la vérité, c'est qu'on est juste trop cool et qu'on est juste victime de notre succès. Bref, quoi qu'il en soit, ce soir le studio est plein de gens qui bossent pendant que le reste de l'équipe se la coule douce. Je pense notamment à nos deux animateurs phares qui nous cassent les oreilles toute l'année car ils ont peur d'être remplacés par les majestueuses Mélie et Victoire, mais qui partent se faire une descente de piste noire à Chamonix dès que l'occasion se présente. Ils sont devenus boomers si vite, ça m'émeut presque. Je les entends d'ici dire « Ouais, mais nous, avant, on a trimé toute notre vie, c'est pas pour se faire remplacer par des petits jeunes qui foutent rien. » Mais bon, en attendant, ils sont bien contents de pouvoir déserter le poste pendant qu'on exploite la jeune main-d'œuvre. Pire encore, la main-d'œuvre étrangère issue de l'immigration polonaise, n'est-ce pas, Victoire ? Lodine et Abel, si vous nous entendez du haut de vos résidences secondaires avec votre verre de champagne à la main, n'avez-vous pas honte ? Mais où partir en vacances, je vous le demande. En effet, chers auditeurs, je vous propose encore une fois de suivre l'exemple de nos super chroniqueurs qui, ma foi, à eux tous, représentent un beau panel du spectre étudiant. Par exemple, suivez Lodine et allez vous ressourcer en forêt, aux alentours de Poitiers ou en Dordogne. Appréciez la mousse, la boue et les tiques. Si vous êtes à Paris, en revanche, vous pouvez toujours suivre ses pas et aller vous perdre au Père Lachaise. Et on rappelle qu'elle a déjà failli y rester coincée pour la nuit et donc ne plus jamais faire l'animation de cours d'honneur. RIP Lodine. Et si vous êtes comme Abel, vous pouvez opter pour un petit week-end à Amsterdam. En effet, sa ressource, même si on a eu très peu de nouvelles de lui depuis ce fameux week-end, je suspecte personnellement un bad trip dont il n'est pas encore redescendu. Eh bien oui, méfiez-vous des apparences, vos animateurs ne sont pas ceux que vous croyez. Et Maëlys, ah là là, Maëlys, qui n'est toujours pas là, pourquoi ? Eh bien encore une fois, elle doit être quelque part entre Londres, Prague, New York, Rome et Elbeuf, on ne sait pas. Petit globe trotteur au bilan carbone beaucoup trop affligeant pour que j'ose le mentionner à l'antenne, mais bon, au moins on espère qu'elle n'est pas en train de réviser cette fois. Si vous êtes comme Mélina, je vous suggère un petit voyage à Bordeaux, dans la Loire ou en Champagne, uniquement pour aller déguster du vin, bien évidemment. Et si vous êtes une Lilou, eh bien, je ne sais pas, à vrai dire, vous êtes quelque part entre la Normandie, Aix-en-Provence et le trou d'un crackhead, en train de chercher vos clés ou dans une soirée un petit peu brosson que vous nous raconterez plus tard. Et puis il y a Thomas, ah là là, Thomas, faites comme lui, ne prenez jamais de vacances, parce que fuck, on dormira quand on sera mort. Même si en vrai, il parcourt quand même pas mal la France et qu'il aime toujours aller se ressourcer dans le sud quelques jours dans une ville dont on entendra beaucoup parler à l'occasion de notre émission spéciale en avril. Et puis il y a Marine, toujours à contre-courant, qui revient enfin et qui bosse uniquement pendant les vacances, elle. Mais on est content de te retrouver, tu es comme l'oasis de notre road trip dans le Sahara.
Ça me touche énormément.
Et si vous êtes une Mélie, bah pareil, vous bossez. Et puis vos temps de trajet quotidien vous suffisent pour avoir l'impression de partir en vacances tous les jours. Alors voilà, si vous êtes une Victoire, une Jeanne, une Sora, une Mélina, une Marine ou un Thomas, et que vous n'avez pas vraiment de vacances, eh bien courage et bravo, les autres, profitez quand même de vos vacances.
Mais elle a laissé...
Destination ?
Moment émotion là un peu quand même.
Vraiment, moi,
je sais pas comment le qualifier autrement, mais c'est poignant.
Ce grand retour Marine, il t'émeut ?
Ah bah oui, l'émotion est au rendez-vous, oui.
Bon bah merci Louane pour cet édito, mais je suis désolée, je suis restée bloquée là-dessus. C'était quand même un peu poussif hein, ton histoire de colline enneigée pour lancer l'édito.
Ouais, ça va, je vois pas de quoi tu parles.
Et puis moi maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de choper mes skis et de faire mes meilleures chasse-neige et virages parallèles, tu vois.
Ah ça c'est vrai que c'est sympa la montagne, c'est un peu comme dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Maintenant place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
À l'ère du numérique, l'actualité est accessible en quelques clics.
Même si c'est très pratique, on sait bien qu'il faut se montrer vigilant face aux potentielles dérives du journalisme 2.0.
Mais qu'en est-il des journaux télévisés, de la presse papier ou de la radio ?
Peut-on encore faire confiance aux médias traditionnels ?
C'est Sora qui vous a posé la question.
À prendre toujours avec des pincettes, je pense, parce que c'est pas du tout objectif. Hein. Ils ont, à chaque fois, il y a un point de vue et ils font pas trop la part des choses, je trouve. Hein.
Mis à part le financement, je pense qu'il y a un problème de sensationnalisme dans les médias traditionnels qui me dégoûte un peu personnellement et repousse l'information du public.
Je fais confiance aux médias traditionnels. J'adore lire les articles de médias traditionnels parce qu'ils sont plutôt professionnels.
J'avoue que je les regarde souvent, mais je leur fais pas confiance à 100%. Je préfère plutôt me renseigner de mon côté, écouter et aller me renseigner de mon côté et approfondir mes recherches parce que souvent c'est un peu limité. même leurs débats, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, c'est toujours les mêmes personnes qui sont ciblées.
Et vu que les médias traditionnels nous renvoient à quelque chose justement de familier parce qu'on a grandi avec, peut-être qu'on a tendance à plus leur faire confiance. Lire des journaux, je trouve que c'est encore important. J'ai l'impression que c'est un peu plus fourni par rapport aux médias télévisés qui bourrent juste le crâne de bruit, mais de bruit finalement parasite.
Je regarde peu le journal télévisé et j'essaie de cibler justement mes lectures ou mes visionnages parce que je pense qu'il y a certaines chaînes de télé notamment et certains journaux qui cherchent juste à faire le buzz ou qui sont très tournés politiquement voilà, avec le gouvernement ou contre. Enfin bref, il faut surveiller voilà, ce qu'on regarde et ce qu'on lit parce que je pense pas qu'on puisse effectivement faire confiance. Je sais pas si on pouvait faire plus confiance avant, mais en tout cas oui, c'est un souci.
Et toi, comment tu t'informes, pardon, ma chère Amélie?
Bah, écoute, je me prépare pour les concours des écoles de journalisme. Donc là, je suis un peu sur tous les fronts. Je regarde la télé, j'écoute la radio, j'ai lu les journaux, je regarde les réseaux sociaux. Je suis un peu partout, là. Et vous, vous informez comment?
Perso, je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit dans le petit magnéto, parce que... Enfin, en fait, il y a une pluralité dans les médias, et bien sûr, il y a des biais politiques, et il faut... Enfin, tu les connais, tu sais quel média appartient à quel... Enfin, en fait, c'est important de le savoir, juste, et après, tu fais tes choix, et tu... Faut aborder aussi avec un peu de méthode l'information, je pense. Voilà.
Je suis d'accord, et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient quand même un peu plus confiance à la presse écrite qu'à la presse télévisée. Je me demande un peu pourquoi, en effet, je pense que même si, en effet, il y a des, donc comme on l'a dit, des biais politiques, des prises de position, des choses pas forcément objectives, après... On a toutes les données au bout de nos doigts accessibles pour se renseigner davantage et pour nous-mêmes aller compléter nos recherches. Donc, au contraire, je pense justement que les nouveaux médias et les anciens peuvent travailler ensemble pour se compléter l'un et l'autre, alors qu'avant, bah, on voyait juste ce qu'on voyait à la télé, on lisait juste ce qu'on lisait et on pouvait seulement aller vérifier ça à la librairie dans une encyclopédie. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien de combiner un peu les deux.
Ce qui est important aussi, c'est comme toi tu le fais, Mélie, et comme on le fait certains autour de cette table, c'est de garder aussi cette pluralité dans comment est-ce qu'on s'informe, de bien alterner entre une presse écrite, la télévision, la radio, mais aussi de médias de différents bords politiques, pour éviter de rester seulement centré sur un type d'idée, un type de discours qui a la... À force peut nous faire penser justement qu'il y a un manque de
bulle informationnelle, voilà, un peu. C'est ça. Plus ça le risque pour moi que la confiance.
Puis le problème aussi quand
très énigmatique cette fin de très méta à la fin.
Puis quand on s'informe via les réseaux sociaux, il y a aussi le problème des je perds le mot évidemment.
Des fake news, des deepfakes.
Ouais, on retrouverait le mot à un moment, vous l'aurez. Mais je sais que j'ai trouvé une application qui est très cool qui s'appelle Pol, P-O-L.
C'est une boulangerie, ça.
Et en fait, c'est une application qui propose une question d'actualité tous les jours.
Sympa.
Et avec un petit contexte, vous devez dire si vous êtes pour, si vous êtes contre, etc. Genre, par exemple, hier, c'était sur Emmanuel Macron qui a dit que le Rassemblement National ne faisait pas partie de l'arc.
Républicain.
Exactement. Et donc, avec tous les contextes, si on était pour, si on était contre, et en fait ça invite à voter et à prendre ce réflexe là, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, moi j'ai profité de Macron pour faire ça, c'est très sympa.
Bon, là on parle de sujets super sérieux, mais est-ce que tu profites bien de tes vacances, Victoire?
Mélie, ne me parle pas de ça, je fais partie de ces Français que la grippe a atteint. J'ai vite développé le lifestyle des soixantenaires, sudoku, sieste et puzzle, et j'ai pris presque 10 ans quand Thomas m'a prescrit de la tisane verveine avec un peu de miel, parce que, je cite, c'est miraculeux.
Pour te réconforter, je te propose d'aller au soleil et de rester dans l'ambiance love de la Saint-Valentin.
Me dis pas qu'on va écouter Plage et coquillage.
Bah si, dis-moi, tu es dans les pensées. Tout de suite, c'est Plage et coquillage de Tao, mon amour.
Tes yeux, pleins de nuages, plus notion de l'espace. Sur la plage, coquillage, comme dans un film en noir et blanc. Je te souris, tu me surprends, et j'aurais voulu te plaire. Plage coquillage.
venez d'écouter Plage et coquillages de Tao Mon Amour sur Radio Campus Paris 93.9 FM, il est 20h18. Sympa ce petit tour à la plage, ça me rappelle mon week-end à Deauville de la semaine dernière. Bisous les cousines.
Ça c'est vrai que ça fait du bien, une petite pause détente en musique. Mais bon là, on est quand même au studio en Sorbonne-Mer sous un ciel pluvieux. Et même si le café est aussi cher qu'à Deauville, on est quand même très loin.
Oui bon, c'est moins fun, mais on a quand même un super invité ce soir comme à chaque émission. Cette semaine, c'est toi Marie... C'est toi Marine qui le reçoit et c'est Florian Jésus-Prêt.
Oui, c'est tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Et oui, ce soir nous recevons Florian Jésus-Prêt. Après un passage par la Sorbonne et une formation au CELSA, vous êtes désormais directeur d'études et consultant chez Think Out. Désolé pour l'accent. Agence d'insight, traduction, cabinet de conseil aux médias qui vise à comprendre les rapports entre ceux qui font les médias et ceux qui les consomment, c'est-à-dire les auditeurs et les téléspectateurs. Autrement dit, votre rôle, c'est finalement de trouver les ingrédients qui font qu'un programme, une émission marche ou pas. Question d'autant plus épineuse, à l'heure de l'évolution et des transformations des médias, nous aurons l'occasion d'y revenir. Florian Jésus-Prêt, bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir dans l'émission de Cours d'honneur. Justement, pour ne pas laisser nos auditeurs en déroute trop longtemps, première question, éclairez-nous dès à présent, qu'est-ce qui marche, ou plutôt qu'est-ce qui marche encore, en termes d'émissions et de programmes, notamment en télévision ?
Rebonsoir Marine, et merci pour votre invitation. Et puis tu as bien résumé ce que je fais, effectivement c'est pas évident, donc je te remercie. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien ? À la télé aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne ? Ce qui fonctionne bien, c'est encore les grandes marques de la télévision, qui sont les grands rendez-vous, qui fédèrent encore aujourd'hui beaucoup de monde en direct, mais parfois aussi en délinéaire, comme on dit, c'est-à-dire sur les plateformes ensuite après diffusion. Donc on va retrouver les grandes marques comme Koh-Lanta, on va retrouver la Star Academy, on va retrouver Top Chef, on va retrouver aussi les grands rendez-vous d'information. Mine de rien, si on additionne l'audience du 20h de France 2 aujourd'hui, du 20h de TF1 et le 19h45 d'M6, on arrive bien à 10, voire plus, 10-12 millions de téléspectateurs par soir, ce qui est énorme. Donc il y a encore beaucoup de rendez-vous qui fonctionnent particulièrement bien, notamment sur, en dehors des grands rendez-vous qui commencent à 21h15 maintenant. Ce qui fonctionne vraiment bien en télé, c'est ce qu'on appelle l'access, prime time. Et donc c'est toute cette séquence qui part de 19h à 21h. C'est là où l'audience vraiment se concentre, puisque les gens rentrent chez eux, ils mettent la télé en faisant la cuisine ou en mangeant, et donc c'est là que se concentre vraiment l'audience.
Mais alors justement, vous parliez à l'instant de nouveaux rendez-vous, mais quand on allume son poste de télévision, on a l'impression quand même parfois d'être condamné à regarder de nouvelles anciennes émissions. Par exemple, rien qu'en 2024, on va assister au retour de Secret Story, de L'Île de la Tentation, du Bachelor. Pourquoi les chaînes ne lancent-elles pas de nouvelles émissions ? Ou, pour aller plus vite encore, est-ce qu'on doit en conclure que la télé, c'est un jour sans fin ?
La télé, c'est tout à fait un jour sans fin. Je crois que on a l'impression effectivement d'être dans Retour vers le futur en permanence en ce moment, depuis plusieurs années. C'est lié à plusieurs... Il y a plusieurs raisons à cela. C'est-à-dire que c'est un média qui est en crise, en crise d'audience, en crise économique, même si ça génère toujours beaucoup d'audience, beaucoup d'argent. Mais globalement, ils se posent énormément de questions. Ils sont particulièrement challengés par... et très en concurrence des plateformes. Donc ce qu'ils vont faire quand on est en période de crise, qu'on fait logiquement, et c'est le cas chez tout le monde et même dans n'importe quelle industrie, on se réfère aux bonnes vieilles recettes parce que c'est rassurant, parce qu'on se dit que le public il sera là quoi qu'il arrive. C'est ce que va faire TF1 effectivement avec Secret Story, c'est ce qu'ils ont fait avec la Starac, c'est ce que d'autres font avec d'autres marques, programmes qui nous ont marqués. On n'est pas à l'abri du retour d'Interville par exemple, je pense, mais en tout cas voilà.
Mais est-ce que c'est souhaitable?
Alors est-ce que c'est souhaitable? Le public pour l'instant il répond en partie à ces vieilles recettes, d'autant plus que le public qui a connu ces marques-là dans les années 2000-2010, Star Academy, Secret Story, pour prendre ces deux exemples-là, aujourd'hui il a 30 ans, 35 ans, 40 ans, et donc il est revenu vers la télé parce qu'il vit,
mais comme une sorte de doudou presque.
C'est ça, donc il y a ce côté, et je vais revenir à ce côté doudou nostalgie qui pour le coup est propre à toute la société et pas seulement aux médias. Les gens ils mangent des coquillettes avec du jambon dans des restaurants. Parce que justement, c'est un plat réconfortant et les restaurateurs misent sur ce côté-là. Les gens, ils vont voilà, s'habiller avec des fringues des années 90, 2000. Parce que voilà, quelque part, il y a une sorte de rétrotopie globale de la société. Et donc, on va avoir confiance effectivement en ces attributs doudous qui vont nous rassurer face à un avenir complètement incertain et effrayant. Donc, il y a ça. Et puis aussi le fait que voilà, on ne prend pas de risque parce qu'on a peur. Et il y a beaucoup de programmes qui ont été. Tu dis qu'il y a beaucoup de vieilles marques qui reviennent. Il y a aussi beaucoup de nouvelles marques qui ont été lancées aussi ces dernières années. Qui n'ont pas du tout fonctionné et qui coûtent cher. On essaie d'éviter ce genre d'accident industriel aussi.
Alors, si on peut s'accorder sur le fait que Koh-Lanta, c'est le coquillette jambon de la télé, sur l'évolution des médias qui concurrencent les médias traditionnels, il a suffi d'environ 30 ans de révolution numérique et d'Internet pour changer en profondeur la presse papier, mais aussi la radio et la télé. Et on parle de plus en plus de la montée en puissance de ce qu'on appelle les nouveaux médias, dont on parlait déjà à l'instant, qui s'incarne majoritairement par des jeunes, voire des très jeunes profils, que ce soit sur des comptes YouTube, via les réseaux sociaux. On peut penser par exemple au succès de Hugo Décrypte, pour n'en citer qu'un. Quel regard portez-vous sur ces nouveaux informateurs ?
Mais ces nouveaux médias, ils sont à la fois neufs, puisque effectivement ils ont beaucoup de récence, et en même temps, ce qu'ils font, c'est déjà quelque chose que proposaient les médias avant. Hugo Décrypte, finalement, c'est une synthèse de l'actualité. Ça peut être aussi des reportages, du décryptage, mais c'est des choses que les médias d'aujourd'hui font déjà. Donc on peut se demander, mais pourquoi lui, il fonctionne mieux auprès notamment des jeunes, mais Hugo Décrypte, maintenant son audience, elle est assez forte. Donc on peut dire qu'il a conquis au-delà des simples jeunes. Et on se demande, quand on travaille, je discute avec les gens, par exemple, de France Télévisions, TF1, etc., ils disent « Oui, mais nous, on a l'impression qu'on fait la même chose, puisqu'en fait, en 20 minutes, je vais faire une synthèse de l'information, ça s'appelle le 1945, et puis je fais pareil que Hugo Décrypte. » Donc le 1945 fonctionne bien, donc c'est un mauvais exemple. Et ils font très bien leur travail, mais Hugo Décrypte, il va s'appuyer sur des recettes qui sont une adaptation, finalement, au code qui sont ceux de la nouvelle génération, des nouveaux usages, des nouvelles plateformes, etc. Donc tout va se jouer sur la façon qu'il va avoir de raconter l'actualité, dans la grammaire qu'il va mettre en place, dans les récits qu'il va mettre en place, et puis aussi, tout simplement parce que lui, il va l'incarner d'une autre façon que Gilles Boulot ou Anne-Sophie Lapix.
Donc un changement dans la forme plutôt que dans le fond.
Un fonction dans la forme, mais dans le fond, au sens où il va y avoir vraiment un changement dans la relation entre l'émetteur et ceux qui vont recevoir l'information. Hugo Décrypte, il est beaucoup moins dans une relation verticale, dissymétrique avec l'audience. D'ailleurs, c'est plus son public, sa communauté, c'est différent d'une audience, parce que les médias traditionnels, ils sont dans une posture où j'émets l'information et les gens la reçoivent de manière un peu passive, etc., dans une relation verticale qui va se traduire par des gens en costume cravate ou des nanas en tailleur qui vont délivrer l'information derrière un bureau. Hugo Décrypte, il est dans une relation beaucoup plus symétrique avec le public, et c'est ça aussi qui résonne aujourd'hui via le digital, puisqu'en fait ça remet cette forme là de donner l'information, elle correspond finalement à l'univers dans lequel on baigne tous les jours, qui est l'univers du digital où tout le monde est au même niveau
et en communication permanente, en fait, perpétuelle. Et alors, plutôt sur la question maintenant de ceux qui détiennent les médias, certains dénoncent le succès de l'Empire Bolloré comme étant la promotion d'une ligne éditoriale conservatrice. À cet égard, cette semaine encore, Télérama s'interroge avec sa une au titre plutôt explicite, CNews, le grand remplacement de l'info. Référence aux propos qui avaient été tenus par Pascal Praud en décembre dernier sur le plateau L'heure des pros, et qui tenait le propos suivant, ça fait beaucoup de pros, la préférence nationale n'est pas un gros mot. D'après vous, ma question arrive, la chaîne d'information en continu CNews est-elle en passe de devenir une sorte de fake news à la française ?
Ça, je sais pas encore. Ce qui est indéniable, en tout cas, c'est eux qui ont la dynamique du succès parmi les quatre chaînes d'infos en continu. C'est eux qu'on le voit en poupe. Alors qu'ils font pas vraiment d'infos, en quelque sorte, ils font du commentaire de l'information. Donc ça, c'est discutable, pas discutable, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est eux qui ont beaucoup de succès aujourd'hui. Après, le succès, il est à relativiser. Je me souviens plus vraiment de leur part d'audience, mais les parts d'audience des chaînes d'info, ça dépasse rarement sauf actualité très forte, ça dépasse rarement les 3 à 4% de part d'audience, ce qui est quand même pas énorme par rapport à d'autres rendez-vous à la même heure. Donc c'est à relativiser. On a l'impression, par contre, que comme ils électrisent un peu tout le débat, ils prennent plus de place que la place qu'ils prennent complètement en termes d'audience. Puisqu'en fait, tout le monde parle d'eux. Quotidien, ils parlent de tous les soirs. C'est à vous, ça leur arrive de parler d'eux aussi tous les soirs. Les débats qu'ils mettent en place, comme Fox News en fait à l'époque, se développe après sur les autres antennes. Donc ils ont réussi la stratégie de Fox News, c'est-à-dire, et le parallèle que tu fais du coup est intéressant, parce qu'ils ont réussi à être le paratonnerre en fait de ce qu'ils pensent être les grands débats de l'époque, et finalement les autres les répercutent sur leurs antennes, et donc on a l'impression que c'est eux qui donnent le là en fait de l'actualité.
Merci pour ces précisions. Alors pour terminer dans un tout autre registre, Emmanuel Macron avait annoncé durant sa campagne en 2022 une mesure visant à redonner du pouvoir d'achat aux ménages via la suppression de la redevance audiovisuelle. Cette promesse est devenue réalité, puisqu'après presque 90 ans de bons et loyaux services, les Français ne participent plus directement au financement de l'audiovisuel public. Très concrètement, cette mesure a comme conséquence d'intégrer le budget de la télé et de la radio publique au budget général, et oblige ainsi l'État à financer directement les médias concernés. Doit-on craindre alors un interventionnisme plus marqué, voire une menace pour l'indépendance de l'audiovisuel public, puisque par exemple, si chaque année France TV doit aller quémander ses crédits à Bercy, on fait comment ?
Oui, mais c'est complètement ça. C'était la crainte, évidemment, et je pense qu'elle est fondée, puisque on passe d'un système où finalement ils avaient une allocation qui leur était délivrée par année et qui était un impôt précis qui leur a été complètement dévolu. D'ailleurs, c'est France Télévisions, Arte, France Média Monde, Radio France. Il n'y a pas seulement France Télévisions. Et là, pour le coup, ils sont dans un mode de financement complètement différent, où ils sont tributaires du législateur et de ce que le législateur va décider de leur allouer pour les trois prochaines années. Parce que je crois que c'est pas il la renégocie pas chaque année, mais pour trois ans à chaque fois, je crois. Et donc là, pour le coup, c'est entre les mains de l'Assemblée nationale directement, même si bon, il y a déjà la tutelle aujourd'hui, enfin auparavant, il y avait déjà la tutelle qui avait son mot à dire, etc., sur les budgets, etc. Mais là, c'est vrai que ça leur échappe plus qu'avant. Et on peut se poser des questions si demain, en fait, ils ont... On a des gouvernements qui ont envie de serrer la vis encore plus ou de faire passer certains messages. Ils sont un peu à leur merci.
Est-ce qu'on va pas vers un retour à l'ORTF, quoi ?
Ils sont un peu plus à leur merci. Je sais pas, il y a quand même des garde-fous qui n'étaient pas énormes hein, auparavant. C'est pas l'audiovisuel public. C'est difficile quand même un peu de s'échapper du politique et de sa tutelle. Quand on est audiovisuel public, on marche sur des œufs en permanence. Il y a toujours des conflits larvés et des luttes de pouvoir entre les directions, les rédactions, la direction de chaque chaîne et le pouvoir. Il y a des pressions, des contre-pressions, etc. Donc ce sera toujours compliqué. Ça a toujours été compliqué. Ça va changer cette espèce d'épée de Damoclès du budget qui va se rapprocher de leur tête. Mais sinon, il y aura toujours effectivement ces luttes de pouvoir comme il y a eu auparavant.
Merci pour ces éclairages. Nous terminons toujours l'interview par la traditionnelle question. Que représente la Sorbonne pour vous ?
La Sorbonne, ça représente c'est mes études, c'est débile ce que je dis, mais ça représente aussi pas seulement les études, parce que j'ai beaucoup séché les cours, donc j'étais pas toujours
dans le bâtiment. Ah voilà, là ça nous intéresse.
J'étais pas toujours dans le bâtiment. La preuve, tu vois, tout à l'heure, je vous ai demandé où étaient les toilettes, je ne me souvenais plus. Mais en tout cas, ça représente l'endroit où j'ai rencontré des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de la fac, c'est quelque chose qui s'est mal... Dans les cours où j'ai été, j'ai beaucoup appris, mine de rien. Même si j'ai beaucoup appris, parfois par des à côté, par d'autres en lisant pas forcément les bouquins qu'on nous donnait à lire, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris, malgré ce qu'on raconte de la fac. Donc c'est beaucoup de richesse intellectuelle, amicale, etc.
Et ben on va s'arrêter sur cette belle note de fin. C'est déjà l'heure de la fin. Merci d'avoir pris le temps de décortiquer avec nous les médias.
Merci à vous.
Ça a été un honneur de vous recevoir.
Merci.
Merci pour votre présence, Florent Jésus-Pré.
Au tout début de l'interview, on a parlé des émissions Doudou. Vous, c'est quoi la vôtre ? Rapidement. Moi, c'est Koh-Lanta, par exemple.
Mais moi, Interville, j'avoue que ça réveille un truc.
Quand...
Mais toi, t'es une petite...
Louane, pas d'insu, par où reste.
T'as pas connu Interville.
Victoire. Ah.
Je sais pas, on va parler de vache,
Victoire. Avec du savon, là.
La vachette et tout.
T'as le wipe out, là. Bref. Comme Marine vous l'a dit, Florian Jésus-Pré a fait le CELSA et on en connaît une qui ambitionne de rentrer dans son cursus journalisme et justement, pour les concours de la semaine dernière, elle n'a pas démérité.
Et après de passer à la casserole pour le CELSA,
elle passe à la cafetière pour CDH.
Tout de suite, elle a des brouilles.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table.
Les vacances sont enfin arrivées, mais à votre plus grand regret, les devoirs ne se sont pas arrêtés, eux.
Vous avez marre de longer les couloirs de la BIS à la recherche désespérée d'une place en plein moment de repos mérité.
Aujourd'hui, Jeanne nous propose une alternative à la déprime, les bibliothèques avec 3 cafés pour bosser.
Eh oui, Mélie, la semaine d'interruption va faire du bien à tous après les partiels et la déprime annuelle du mois de janvier. Mais si, comme moi, vous avez des exposés, des dissertations à ne plus savoir où donner de la tête, mais que la perspective d'errer dans les couloirs de Sorbonne vous donne envie de faire demi-tour, Tata Jeanne a la solution. Voici 3 idées de café où travailler à moins de 5 minutes de Sorbonne. Tout d'abord, vous avez envie de voyager, de voir d'autres lieux que la simple rue Victor Cousin. Pas besoin d'aller plus loin pour trouver un petit substitut. Le café MA de l'Institut finlandais vous offre un espace calme à 3 minutes de la fac. Dans une déco épurée à la IKEA, avec son mobilier beige et ses murs verts, le café vous propose des spécialités finlandaises que je ne prononcerai pas ici car mon finnois est aussi bon que mon italien, soit quasiment nul. Bref, c'est un lieu bien dépaysant et éloigné des vieilles tables en bois de Sorbonne. Mais si l'ambiance de la BU vous manque, je comprends, le café Nuage Paris est parfait pour vous. L'espace de coworking est ouvert de 9h à 19h au 14 rue de Carme. Le concept est simple, on y paye le temps passé sous forfait d'une heure, d'une demi-journée ou d'une journée complète. Vous êtes entouré de gens concentrés comme vous qui tapent frénétiquement sur le clavier de leur MacBook. Je sais, ce son est énervant, mais avec l'autorisation de parler cette fois. Si vous voulez travailler en groupe, vous pouvez même réserver une salle pour être tranquille. Et enfin, je vous partage mon adresse trésor qui se situe au bout de la rue Sorbonne, le salon du Panthéon. Cet espace caché se trouve juste au-dessus du cinéma du Panthéon. Dans ce loft de 150 mètres carrés, les murs sont recouverts d'anciennes affiches de films en arabe et de photos d'acteurs et d'actrices. Pour l'anecdote, l'endroit a été entièrement décoré par le décorateur Christian Sapet et surtout mon doudou de l'écran, la grande actrice Catherine Deneuve. Si cet argument n'a pas fini de vous convaincre, sachez que le salon du Panthéon dispose de prises, de calme et reste ouvert jusqu'à 19h.
Merci beaucoup Jeanne, j'étais tellement prise. Donc,
je vois ça, je vous laisse mettre.
Ta contemplative. Moi tu parles de Deneuve, je peux plus quoi, je ne suis plus, j'arrête. Bref, vous bossez plutôt à la BIS, à la BSB ou au café?
Bosse pas.
Mais, merci Louane, je parlais plutôt genre à Jeanne quoi.
J'ai essayé une seule fois la BIS et honnêtement j'ai juste erré dans la salle de philosophie à essayer de trouver... Ah non, et puis j'ai vu un bouquin de Kant, ça m'a effrayée, je suis repartie en courant en disant non pitié j'en peux plus.
Parce que les cafés c'est bien en vrai, je suis d'accord. Ouais.
Moi je bosse dans les cafés en début de mois, puis quand il n'y a plus d'argent je vais à la bibliothèque.
Moi j'avoue que la BIS, si on pouvait signer une petite pétition pour que les L1 y aient accès, je suis très chaud.
Jamais.
Déjà pour qu'ils aiment Sorbonne, ce serait bien.
Pour qu'ils aiment Sorbonne ?
Quoi ? Ouais, il y a 2-3 conflits où ils nous aiment pas trop apparemment. Je ne dis ça comme ça, mais j'aime beaucoup la BIS, hein, mais ils préfèrent Panthéon-Sorbonne, c'est un petit entre-accord.
Entre-eux.
Voilà. Okay.
La dernière fois, l'émission était en roue libre avec ses nouveaux arrivants, mais cette semaine, on sent plus globe-trotteuse.
On veut parcourir le monde, et pourquoi ? Pour ça ? Pourquoi ? C'est Catherine Deneuve, hein, je m'en vais pas. Et pour ça, quoi de mieux que Monde de Luigi?
Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde.
soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber, abandonné comme une bête sauvage blessée. Je regrette le temps que j'ai passé à me négliger, m'ignorer, m'excuser d'exister. Oh, j'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Je le fais avec mon cœur, mes couilles. Je ne prends pas de cours de chant. Je ne prends pas de cours de chant. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que celle me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes parmi les grands de ce monde. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps, chaque partie de mon corps. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde.
Dans vos oreilles, c'était Monde de Luigi sur Radio Campus Paris 93.9 FM et il est 20h35.
Ils sont vraiment cool hein, ces textes à Luigi.
Et pour continuer sur des notes poétiques, je te propose de recevoir l'invité poésie de Mélina.
Je crois que la poésie sont des rêves de bonne qualité.
Il n'y manque que ma petite touche perso.
C'est l'art de rêver et de faire rêver aussi.
Aujourd'hui, Milna, tu reçois Stéphane Lambion.
Effectivement, Mélie, ce soir, nous recevons Stéphane Lambion, poète, doctorant en théorie et pratique de la création littéraire et artistique à l'Université Aix-Marseille, auteur du recueil Presque siècle aux éditions de la Crypte, nommé en 2023 pour le prix Apollinaire Découverte et pour le prix de poésie de la vocation. Il écrit aujourd'hui une poésie documentée sur le thème de la maladie et de la représentation que l'on peut en avoir avec son projet MLD. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Cours d'honneur. Merci d'être avec nous ce soir.
Merci.
Nous avons vu à plusieurs reprises lors des dernières chroniques poésie de l'émission que la spontanéité était l'essence de la création poétique. Comment est-ce que toi, de ton côté, tu arrives à associer la spontanéité et la création dans une poésie aussi documentée que la tienne ?
Je pense que pour moi, la partie spontanéité vient du rapport au vécu, d'une part. Et après, elle vient aussi, donc elle vient d'impulsions en fait, qui viennent, enfin d'impulsions du corps, d'impulsions de, c'est des idées qui sont incarnées en fait au sens propre, enfin parce que évidemment j'écris sur la maladie, donc il n'y a rien de plus incarné que ça pour ce projet. Et après, dans le rapport à la création, pour moi la spontanéité, elle vient au début, elle vient avec l'idée. Et ensuite, c'est quelque chose que tu essayes de retrouver régulièrement durant le processus de travail. Mais le processus de travail, c'est un labeur un peu plus minutieux et un peu plus... qui peut-être effectivement est moins dans la spontanéité. Surtout effectivement quand tu travailles avec des documents, quand tu travailles sur des sujets précis et techniques potentiellement, comme celui de la maladie. Donc, je pense que la part de spontanéité, pour moi, elle se situe quand même essentiellement... dans la façon dont moi je me rapporte à mon sujet, la façon, on va dire, incarnée dont j'essaie de m'y rapporter.
Et en prenant tout ça en compte, est-ce que tu trouves qu'écrire sur le sujet de la maladie est plus complexe que d'écrire sur d'autres sujets ou pas forcément ?
Oui et non. Non, parce que c'est un sujet très précis. c'est un objet très précis en fait. Donc ça a pas le côté un peu vague et parfois vaporeux d'écrire sur des grands thèmes, je sais pas, tu vois, d'écrire sur l'amour, d'écrire sur c'est quelque chose de très précis, très concret, très net, très nettement, enfin non, justement pas très nettement défini, et c'est ça qui est le problème, et c'est ça qui est le problème, mais bon, dans comment dire, au sein du flou que le terme de maladie peut recouvrir, et au sein du flou qui accompagne sa définition, ça reste quand même un terme technique. Donc de ce point de vue-là, il y a une facilité parce que le sujet est concret. De l'autre côté, effectivement, il y a une difficulté parce que c'est un sujet qui, évidemment, n'est pas directement associé à l'écriture littéraire, on va dire, que ce soit une écriture de poésie, que ce soit une écriture fictionnelle, que ce soit une écriture... enfin, si c'est associé à quelque chose, c'est davantage associé au témoignage, au récit, donc à des formes qui en fait sont vraiment du côté documentaire, on va dire. Et c'est peut-être là qu'est la difficulté, c'est comment écrire sur la maladie, comment écrire avec la maladie, en essayant de marcher sur cette corde raide, sur ce fil entre création, entre quelque chose qui relève vraiment d'une forme de création et le côté documentaire, donc une forme d'exactitude. C'est un sujet avec lequel on n'a pas envie de dire n'importe quoi en fait, parce que c'est un sujet qui touche immédiatement les gens, qui me touche immédiatement moi évidemment, qui touche immédiatement les gens, qui a un impact social, qui a un impact politique, et c'est un sujet qui, voilà, qui a un objet concret par rapport auquel on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc je dirais que de ce point de vue-là, c'est à la fois plus facile que d'autres sujets et en même temps aussi plus délicat peut-être que d'autres sujets.
Finalement, la poésie qui porte sur le thème de la maladie, c'est pas une poésie de lieu commun.
Non. C'est un peu le problème avec la maladie, c'est qu'en fait, très souvent, on finit par retrouver des textes assez similaires, mine de rien, dans leur construction, dans la manière dont ils abordent la maladie. C'est assez intéressant, il y a même... Bon, il y a tout un champ de métaphores, par exemple, qui revient pour parler de la maladie. Évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est avec le cancer, c'est la métaphore de la lutte, de la bataille. On lutte contre un cancer, le cancer c'est un ennemi qui vous dévore de l'intérieur, il faut se battre, il faut rester fort, il faut rester forte. Donc, quelque part, il y a aussi des lieux communs de la maladie. Il y a beaucoup de lieux communs de la maladie. La question, c'est justement comment est-ce qu'on peut affiner ça pour dire la maladie autrement que de cette façon-là. Et c'est d'autant plus frappant que quand on parle de la maladie, la maladie, c'est un des sujets qui est abordé aussi par beaucoup de non-écrivains, non-écrivaines, on va dire. Beaucoup de gens en hôpital qui ont besoin d'écrire. Et c'est des gens qui n'ont pas d'expérience a priori de l'écriture et qui effectivement peut-être se rattachent davantage à ces lieux communs. Parce qu'ils y trouvent une forme de vérité, ce qui est complètement valide, ce qui est complètement légitime. Ce qui compte, c'est ce que eux, ça leur donne. Mais effectivement, c'est intéressant de voir comment on peut peut-être essayer autre chose.
C'est presque une première étape vers la guérison, finalement, l'écriture, en tout cas pour certaines personnes.
Complètement, oui. Complètement. Bon, les ateliers d'écriture en hôpital, c'est une pratique ancrée, on va dire, depuis longtemps.
Et justement, tu nous disais, en tout cas tu disais en off, qu'il était important pour toi de ne pas détacher le contexte socio-historique du contexte scientifique, car tous participent aux représentations que l'on a de la maladie. Quel est selon toi l'imaginaire commun associé à la maladie, s'il y en a un, et est-ce que ton travail consiste à s'en détacher ou plutôt à s'en approcher ?
Clairement à s'en détacher ou en tout cas à le nuancer. Et oui, je pense qu'il y a une représentation commune de la maladie. Je pense que ça fait partie des choses qui restent encore un petit peu peut-être tabou d'une certaine forme dans la société. Bon, j'en parlais avec un poète il n'y a pas longtemps qui me disait à quel point il est frappé de voir que, par exemple, dans le cas de la sclérose en plaques, c'est un sujet qui... est abordé vraiment beaucoup moins dans le discours public français que dans le discours public, par exemple, il citait les pays scandinaves. Bon, mais de manière générale, je pense qu'il y a une représentation de la maladie. On a tous une sorte d'image de la maladie. Et la maladie, c'est quelque chose qui se cache, quelque chose qu'on cache, quelque chose qui... Ça se passe dans les hôpitaux, ça se passe à la maison. Et je pense que ça fait partie aussi peut-être des... Comment dire, des formes de discrimination les plus pernicieuses, parce que les plus celles contre lesquelles le discours public est le moins affirmé, on va dire, surtout en France, de plus en plus à l'étranger. Donc il y a eu par exemple tout le champ des disability studies qui s'est ouvert, par exemple, et il y a eu des glissements terminologiques qui sont assez intéressants. Par exemple, le fait de ne pas dire qu'une personne est disabled, mais de dire qu'elle est less able ou otherly able, de dire qu'elle a des habilités différentes plutôt que de dire qu'elle n'a pas d'habilité. Je pense qu'une des grandes questions politique, c'est le cas. Une des grandes questions, on va dire, politiques autour de ça, c'est de redéfinir des questions de normes, en fait, de qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que c'est d'être en santé, et qu'est-ce que c'est d'être normal ou d'être anormal, et justement d'essayer de comprendre que le terme anormal n'est pas forcément, n'a pas de valeur. Et donc, par rapport à ce qu'on disait sur le contexte social et le contexte historique, le rapport, c'est que la perception des maladies diffère énormément selon les pays, diffère donc selon les cultures, diffère selon les époques aussi. Un livre qui est hyper intéressant de ce point de vue-là et qui reste complètement d'actualité à mon goût, c'est La maladie comme métaphore de Susan Sontag, qui justement explique, par exemple, qui essaie de défaire tous les mythes et les métaphores qui sont associés, en l'occurrence d'une part au cancer, de l'autre part à la tuberculose, chacune étant associée à une image, à une représentation. Voilà, la tuberculose, c'est la maladie artiste, la maladie de la sensibilité. Le cancer, c'est la maladie un peu sale qui vous ronge de l'intérieur et qui traditionnellement est due à de la colère réprimée, à des émotions qui ne sortent pas. Donc en fait, toute maladie est associée à une représentation socio-historique.
Et l'idée d'écrire sur le sujet de la maladie vient d'abord chez toi d'une expérience personnelle. Est-ce que tu penses que pour écrire sur de tels sujets, il est nécessaire de les avoir vécus, ou les représentations et la documentation, pardon, sont entre guillemets suffisants ?
Nécessaire, pas forcément. Je pense que on peut être un très bon écrivain ou une très bonne écrivaine et parler de ces choses-là de manière pertinente. Je pense à certains textes, à certains qui me plaisent plus que d'autres, mais d'ailleurs, peu importe mon goût sur la question, mais il y en a, par exemple, Olivia Rosenthal qui écrit sur la perte de la mémoire, en fait, par exemple. Il y a beaucoup de textes écrits par des gens non malades sur la maladie. Je pense qu'avoir une expérience personnelle de la maladie apporte quelque chose. Inévitablement. Je pense que ça apporte cette forme d'incarnation qu'on ne peut pas trop avoir autrement. Et je pense quand même qu'effectivement, une expérience personnelle apporte quelque chose dans l'écriture de la maladie.
Et est-ce qu'en considérant tous les éléments de réponse que tu nous as donnés, on pourrait qualifier ta poésie de, entre guillemets, poésie scientifique ?
Non, je ne pense pas. Notamment parce que ça correspond vraiment à un genre poétique bien avant la médecine moderne, assez classique. Donc la dénomination poésie scientifique, de toute façon, est un petit peu pas trop utilisée, je pense. Et en tout cas, non, je pense que c'est une poésie qui prend en compte la science, on va dire. Enfin, en tout cas, la médecine. Parce que justement, toute la question, c'est est-ce que la médecine est une science aussi ? À quel point est-ce que le donné scientifique prend le pas sur le donné vécu du patient ou de la patiente ? Donc, dans tous les cas, scientifique, non. Après, est-ce que c'est une poésie médicale ? Je pense pas non plus. Je pense que c'est une poésie qui parle de ça, qui parle avec ça, qui parle à partir de ça notamment. D'ailleurs, c'est une poésie... Aussi, c'est pas, comment dire, même le terme poésie dans mon travail, dans MLD, c'est pas une forme vraiment poétique, pas purement poétique en tout cas, Mais voilà, je pense que c'est plutôt comme ça que je la définirais, que je la cernerais.
Et pour finir, tu as souhaité nous lire un court extrait de MLD, ton projet en cours. La parole est à toi.
Alors, je vais vous lire un extrait qui s'appelle IRM, Punctum 1. Plus que tout autre, une image me hante depuis 2020, celle de ma première IRM cardiaque, celle du tout premier texte écrit après l'événement, que je ne sais toujours pas nommer. L'accident, la maladie, à défaut, je le date, le 13 avril 2020. Cette image, donc, qui s'est imposée comme une évidence, à la fois au sens anglais et au sens français du mot, la preuve évidente de quelque chose. Quand je vois l'image de mon cœur, je suis comme Barthes, comme Roland Barthes, imagine Nicéphore Niépce face à la première photo. Je suis devant un type d'image que je ne connais pas et qui est pourtant réel, indéniable. Toute photographie est un certificat de présence. Toutefois, ce n'est pas l'image dans son ensemble qui m'arrête, mais tout particulièrement quelques millimètres plus blanc que le reste, une petite tache en haut à droite du cœur, à cause de laquelle il m'est impossible de simplement ignorer ou écarter l'image. Cette tache, c'est la partie du muscle qui est morte. Pour moi, c'est son punctum, la zébrure inattendue, le stigmate qui me fait rentrer dans l'image et m'y retient inévitablement. Cela, je ne l'ai compris que 2 ans plus tard, en lisant pour la première fois La chambre claire de Barthes. Je logeais alors dans une communauté d'artistes où quelqu'un avait laissé un exemplaire de la traduction anglaise et je voulais lire ce texte depuis plusieurs années déjà. En y découvrant le terme de punctum, jusqu'alors entendu à de nombreuses reprises sans en saisir la portée, ce mot m'a aussitôt parlé au cœur. Il a parlé à mon cœur, me renvoyant directement à l'IRM qui me hantait. Ce punctum, c'est ce qui m'arrête et me retient. Je ne connais rien aux images médicales, je ne sais pas les lire. Je suis si ignorant en la matière qu'en voyant mon IRM pour la première fois, sans aucun indice préalable, je n'aurais même pas su dire de quelle partie du corps il s'agissait. Cependant, même sans rien savoir, la tache blanche suffisait. Je comprenais que quelque chose n'allait pas. Et une fois que l'on m'avait expliqué à quoi cette tache correspondait, je ne voyais plus qu'elle. Elle devenait davantage qu'un punctum, elle était l'image tout entière, car au fond, il n'y a rien d'autre à voir dans cet IRM que ce punctum, cette poncture du cœur, comme un endroit percé par où s'est échappé un peu de vie. Le punctum, c'est « il va mourir ». Fin de citation.
Merci beaucoup. Merci. Applaudissons.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi. Merci pour ta sensibilité, le partage de tes mots, à la fois MOT, à la fois MAUX. On te retrouve en librairie avec tes recueils déjà sortis, dont Presque siècle aux éditions de la Crypte. Édition de la Crypte qui organise d'ailleurs une lecture à laquelle tu seras présent ce samedi 24 février à 19h à l'EXC Librairie, une librairie spécialisée en poésie contemporaine située au passage Molière dans le 3e arrondissement de Paris, juste en face de la Maison de la Poésie. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas y assister, ils peuvent te retrouver sur Instagram, @StéphaneLambion, et sur ton site internet où tu publies non seulement tes poèmes, mais aussi toutes tes créations visuelles, stéphanelambion.fr. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Il est en stage, mais trouve quand même le temps de découvrir des choses inutiles.
Les savoirs inutiles, donc complètement indispensables, de Thomas.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
Chaque semaine, tu nous racontes une anecdote méconnue de l'histoire de la Sorbonne.
Pour ce nouvel épisode, tu nous parles de la fresque sous les arcades de la cour d'honneur.
Mais oui, tout à fait. Sachez, chers confrères, chers consoeurs, qu'en l'an de grâce 1253, à la Plaine, à mi-chemin entre Paris et Saint-Denis, s'ouvrait pour la première fois une foire pendant une quinzaine de jours. Elle durait du 2e mercredi de juin jusqu'au 23 juin, la foire dite du lundi, non pas du lundi, rien à voir, annoncée et bénie par l'évêque de Paris. Hello, darkness, my old friend. Cette foire, donc bénie des marchands sur ce chemin du Moyen-Âge qui était un lieu incontournable pour les tractations au nord de l'Europe. Tous ceux qui voulaient échapper également aux taxes de la capitale devaient s'y rendre. C'était idéal, et ce, de l'Antiquité jusqu'en 1556. 1556, c'est à cette date où le roi a décidé de faire rentrer la foire à l'intérieur de Saint-Denis. Et notre peinture, ben, sous les arcades de la cour d'honneur, elle montre cet épisode très particulier, le cortège de l'université, puisqu'en grande pompe, le recteur, les professeurs, tous les représentants de la Sorbonne et à leur suite les étudiants braillards et batailleurs se rendaient donc au Landy pour faire le plein de parchemins, mais surtout pour faire la grosse teuf. Yo yo yo, disaient-ils sur leur chemin. Et oui, puisque c'est ce que représente notre fresque, une foule de gens, de doyens, de procureurs, d'étudiants assemblés en procession solennelle des hauteurs de Sainte-Geneviève vers Saint-Denis en passant par la rue Saint-Jacques. On est loin d'un marché de rue banal, c'est clair, mais bien un petit événement, une petite beuverie et l'occasion d'acheter du parchemin pas cher. Alors, la foire du Landy, elle demeurera pour longtemps pour les Parisiens l'occasion de prendre l'air au moment des premières chaleurs de juin, visiter l'abbaye et les tombes des rois de France à Saint-Denis, profiter des divertissements nombreux, oui, puisque on parlait davantage en fait d'une fête foraine que d'un marché. Bravo, bravo les étudiants, toujours les premiers pour aller faire la teuf. Sachez que les deux peintures que l'on trouve aujourd'hui sous les arcades de la cour d'honneur s'appellent la foire au parchemin à gauche et à droite, le cortège joyeux des étudiants se rendant à la fête. Elle a été réalisée par Joseph Vertz, un peintre académique français connu notamment, pour un tableau sur la mort de Marat qui lui valut rien de moins que la Légion d'honneur. Voilà, cette œuvre souffre toutefois un peu de l'usure du temps. Elle a d'ailleurs été confiée aux mains expertes des élèves restaurateurs du patrimoine dans le cadre d'un chantier école en 2013. Mais le dépoussiérage et le vernis ne remplacera jamais l'amour que portaient ces élèves à ce rendez-vous annuel. La fête du Landy, messieurs, dames.
Merci beaucoup Thomas pour à nouveau ces savoirs inutiles. Hein, mais on adore, vraiment on adore, c'est génial. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode de Cours d'honneur.
Mais non, quoi, c'est pas possible.
Bah, je sais si. Que t'es déçue, Louane. Ouais.
Oui, on joue dans la boîte.
On sait, on va beaucoup vous manquer.
Mais en attendant, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur nos plateformes et nous suivre sur les réseaux.
Sans oublier qu'on est là un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris, fréquence, je le rappelle, 93.9 FM.
Merci à toute l'équipe.
Marine.
Merci à vous.
Jeanne.
Merci à vous.
Mélina.
Merci, merci beaucoup.
Louane.
Merci et à mardi prochain.
Ouais.
Tout à fait.
Sora.
Merci.
Et bravo à notre recruteur en chef qui, on l'espère, nous a préparé des crêpes. Merci Thomas.
Le King.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais, on se retrouve juste après.
Il a menti.
On remercie
merci
aussi
de m'avoir accueilli, les gars.
La déception est réelle. Hein. On remercie aussi Radio Campus Paris et le service culturel pour leur soutien.
La prochaine fois qu'on s'entend, c'est à Richelieu pour une émission en direct et accompagnée du public. D'ici là,
prenez soin de vous.
Bisous, bisous.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pexe, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
j'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.